La rosée.
Une émission culture et pas que. On y parlera théâtre, on parlera musique, on fera le tour des lieux et des événements. Il y aura des invités, du live, tous les troisièmes lundis du mois, à partir de 16h30 et jusqu'à 18h, sur Radio Galère 88.4.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue, vous êtes sur La Rosée, une émission culturelle mais pas que. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023. Et en ce beau lundi 18 septembre 2023, nous recevons le collectif Manifeste Rien avec Jérémy Béchouan.
Bonjour.
Bonjour Jérémy, qui est un peu en avance. Tu t'es levé tôt peut-être ?
Oui, très tôt.
Il s'est levé très tôt pour préparer ça. Alors Jérémy, le collectif Manifeste Rien, un collectif de théâtre marseillais, je peux le dire.
Oui.
Vous êtes né à Marseille, enfin vous êtes créé à Marseille. Ça travaille avec des Marseillais. Vous êtes connu par les Marseillais, par les services publics, par beaucoup de gens dans ce territoire, et également pour être un collectif qu'on peut dire assez engagé, qui fait des créations qu'on peut nommer engagées. Est-ce que tu peux te définir comme ça, ou c'est quelque chose qui ne te convient pas, ou ça te convient ?
Si, bien sûr, ça me convient, mais bon, déjà, il n'y a pas que des Marseillais dans la compagnie. On a aussi Olivier Boudran qui est notre ami parisien.
Ouais.
Et on a la chance de travailler nationalement parce que c'est le milieu du théâtre à Marseille est aussi assez petit. C'est important de pouvoir jouer ailleurs. Engagé, oui, mais évidemment, le processus n'a pas été de vouloir faire du théâtre engagé. Mais tout ce qu'on a proposé sur scène a toujours été mis dans cette catégorie-là. Donc c'est quelque chose qui est important, mais il faut se méfier de l'aspect réducteur de ça. C'est quand même du théâtre, c'est quand même un divertissement, et ça utilise quand même la magie de l'art de la scène.
Bien sûr. Est-ce que ce serait peut-être plutôt les pièces qui sont créées que vous, certaines pièces qui sont créées, qui sont engagées, plutôt que le collectif en lui-même totalement ?
Non, toutes, mais c'est juste qu'il y a d'abord eu le désir... Le désir d'être sur scène, le désir de partager des choses avec les comédiens, avec les techniciens, avec les musiciens, qui ont donné par la suite les pièces qui effectivement le sont, comme l'histoire universelle de Marseille, les rafles d'un siècle à l'autre qu'on a fait il n'y a pas très longtemps là au Théâtre de l'Œuvre, les trois exils d'Algérie. À chaque fois, c'est vrai que les thématiques sur la colonisation, contre le centralisme, sur l'histoire de l'immigration, sur l'histoire urbaine, sur la ségrégation urbaine, reviennent sans cesse dans nos spectacles.
Oui, il s'avère qu'étant marseillais, forcément, c'est des thématiques qui touchent la ville. Et du coup, vous êtes obligé d'en parler. Donc, comme tu l'as dit, vous avez récemment créé un spectacle sur les rafles. La rafle de 1943 à Marseille, où il y a eu la destruction du quartier du Panier. Vous avez créé une pièce qui met en lumière ces rafles avec l'époque moderne. Une pièce aussi qui tourne depuis un certain temps, Histoire universelle de Marseille, entre autres. Du coup, des sujets assez ancrés sur un territoire ou pas, mais en tout cas concrets, très concrets. Et là, vous revenez cette semaine... Vous allez jouer le jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 de cette semaine, septembre, au Théâtre de l'Œuvre à Marseille, rue Tubano. Un nouveau spectacle qui s'appelle « Pour un nouveau système ». Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce spectacle ?
Pour un nouveau système, ça part d'une histoire d'amour entre une jeune femme et un poète qui est empêchée par les interdits sociaux. La famille de cette jeune femme ne veut pas qu'elle vive cette histoire d'amour-là. Et ce poète lui-même se débat dans son milieu de la culture contre ce qu'on va appeler les nantis de la culture. Et c'est comment cette histoire d'amour-là va pouvoir se réaliser dans un monde qui est toujours patriarcal, hétéronormé, qui est toujours... figé par un néocolonialisme qui se dit pas forcément, mais qui se vit, qui se subit. Comment ces gens-là vont arriver à se libérer d'eux-mêmes de l'enclave dans laquelle on veut les mettre. Et un des personnages pivots qui va les aider à ça, c'est Corazon, un personnage qu'on a tiré de Tout sur ma mère, du film de Pedro Almodovar. Et cette femme trans s'étant elle-même libérée de tout un carcan, justement, dont je parlais, hétéronormé, qui aime la vie, qui aime se montrer, qui aime la chatoyance des choses, qui jouit de la vie en permanence, leur montre le chemin pour pouvoir arriver à ne pas se bruser, à ne pas se brûler les ailes en s'affirmant soi-même. C'est le canevas de la pièce à travers lesquels on découvre les thématiques que sont celles de la colonisation, celles de notre monde d'aujourd'hui.
Du coup, une histoire d'amour entre deux jeunes gens, une histoire d'amour pas forcément réalisable ou plutôt complexe, que vous allez mettre en scène cette semaine. Et alors, avant d'exposer plus en détail, plus en lumière, avec encore plus de cœur cette pièce, on va écouter la chronique de David, du tonton David, le D7, 7 minutes. Il va nous parler de cette pièce, mais vu qu'il n'a pas entendu, il ne va pas s'y étaler, mais il va nous parler d'une notion importante sur laquelle j'aimerais qu'on revienne et que vous allez entendre dès la fin de cette chronique qui est normalement à ma portée. Je vais la trouver. Où est-elle ? Bon, et eh bien le D7, c'est pas pour l'instant. Je la cherche encore. Je la cherche encore sur l'ordinateur. En attendant, est-ce que tu peux me développer un petit peu plus les inspirations que vous avez pour cette pièce ? Parce que là, tu m'as parlé de Pedro Almodovar avec le personnage de Corazon dans le film Tout sur ma mère. Mais si je ne m'abuse, il y a d'autres inspirations.
Oui, on s'est aussi inspiré des textes politiques d'Aimé Césaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un poète qui fait un essai sur l'art et un essai en tant que député, parce qu'il était député de la Martinique en France. Et donc, quand c'est ce poète et ce dramaturge qui parle, ça a, à notre sens, une toute autre ampleur que quand c'est un homme politique dont c'est la seule formation. Qui va parler justement de l'esclavage et de, même si l'esclavage ne sévit plus quand lui écrit dans les années 1960, par contre il a cette conscience historique de ces 3 siècles d'esclavage, de ces 5 siècles de colonisation qui pèsent encore sur lui et puise à cette mémoire séculaire, voire à la mémoire millénaire même de la mémoire africaine, en revenant à la magie même des choses avant la destruction d'une civilisation dont il parle lui-même, d'une civilisation de la domination, d'une civilisation du désastre, qui est celle qu'il contemplait à l'époque et dont on pense que c'est encore le cas. Et on s'est également inspiré de Stieg Dagerman, qui est un écrivain suédois, qui est connu pour avoir écrit « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », qu'on chantait les têtes raides il y a quelques années de ça. Un écrivain et poète, Dagerman, qui a été présenté comme maudit, mais qui était quelqu'un qui a eu un franc succès à l'époque. C'était un intellectuel extrêmement, extrêmement important, extrêmement influent, et qui a justement travaillé sur les questions d'engagement, qui a essayé de théoriser comment on pouvait encore aujourd'hui écrire en venant d'un milieu populaire et porter cette parole-là dans le monde de l'art où il a réussi, qui était un monde essentiellement bourgeois. Comment arriver à préserver cette authenticité ? Voilà.
Du coup, on va écouter un petit passage d'une interview d'Aimé Césaire qui parle de ça, qui parle de son rapport au théâtre, de comment pour lui le théâtre c'est quelque chose d'assez concret, peut-être plus accessible aux gens que la poésie, surtout qu'Aimé Césaire il a une poésie assez soutenue, assez intellectuelle malgré tout, même si elle est très concrète.
Je suis assez d'accord de ça. Le théâtre d'Aimé Césaire est beaucoup plus abordable que sa poésie, même si moi les deux me touchent pareillement. Mais c'est vrai que le théâtre permet cela, et c'est d'ailleurs un des textes qu'on a mis en scène de Stieg Dagerman, c'est l'écrivain et la conscience dont on s'est inspiré dans la pièce. Et justement, il parle des impasses de la poésie. Et nous, en mettant en scène le spectacle, on s'est aperçu que les impasses de la poésie, ce qu'il appelait prolétarienne dans le monde bourgeois aujourd'hui, peuvent être dépassées, en restant humble bien sûr, mais par le théâtre et par l'éducation populaire.
Oui, la poésie transfuse en fait dans le théâtre parce que...
Oui, la poésie transfuse dans le théâtre, mais le théâtre peut justement le redistribuer à un plus grand nombre parce qu'il ne passe pas par cet objet du livre qui est beaucoup moins partagé que la scène.
Bien sûr. Eh ben, on va écouter Aimé Césaire nous parler de ça dans un contexte qui, lui, est lié à l'Afrique, au colonialisme et notamment dans les îles, avec des gens qui se sont éloignés de la mémoire et comment, pour lui, le théâtre est un moyen d'y retourner. Il y a un problème technique, je ne comprends pas ce qui se passe. En fait, je lance des sons et rien ne se passe. Non, ça ne marche pas.
Ce que je peux dire d'Aimé Césaire en attendant que tu essayes de débloquer la machine, c'est qu'il a...
Vas-y.
Il a travaillé sur la colonisation, mais à un endroit particulièrement intéressant, c'est qu'on a l'habitude d'entendre la colonisation en dénonçant les crimes coloniaux. Et seulement, en prenant en compte dans l'injustice les terres spoliées, par exemple, du colonisé. Ce qui est intéressant chez Aimé Césaire et qu'on a mis sur scène, c'est qu'il dit que la colonisation dégrade d'abord le colonisateur. Ça le dégrade, ça le réveille à des instincts enfouis. Et cela sème le venin, comme il dit lui-même, dans les veines de l'Europe. Et de voir comment, justement...
Et quand il dit ça, il ne parle pas simplement du soldat ou de celui qui est allé coloniser, mais même du citoyen lambda.
Oui, du citoyen lambda. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'actualité, avec par exemple le retour du roman national à l'école, dans l'éducation nationale aujourd'hui, avec le nouveau ministre de Macron, on retourne encore une fois à cette hérésie-là qu'ont contré des tas d'historiens, à savoir ce roman national, nos ancêtres les Gaulois, ces choses dont on pensait être débarrassés théoriquement reviennent sans cesse. Et évidemment, Aimé Césaire posait la question de comment pouvoir faire un bien commun qui prenne en compte les singularités de chacun.
Oui.
Notamment sur un Martiniquais, c'est pas forcément la même. Quelle universalité possible à trouver dans les différences même de chacun?
Et ben, on va écouter tout de suite ce qu'il dit sur le théâtre, car le problème technique a été résolu. C'est parti, Aimé Césaire.
Vous avez longtemps utilisé la poésie sous sa forme la plus pure, le poème, comme moyen d'expression. Voulez-vous nous dire maintenant pourquoi vous paraissez vouloir utiliser la forme théâtrale pour vous exprimer?
La forme théâtrale me permet précisément de, si vous voulez, de mettre la poésie à la portée des autres. À vrai dire, tout ce qui est dans mon théâtre est déjà dans ma poésie. Pour moi, j'ai toujours l'impression que j'écris un seul et même poème, et c'est la même chose. Mais enfin, par la force des choses, le mode d'exposition, si vous voulez, est différent. Donc, par conséquent, le théâtre permet au public d'appréhender plus facilement ce que je veux dire. Bon, il y a ça. Bon, probablement, je pense. Et puis enfin, il y a, si vous voulez, un peu la commande sociale, comme dirait Mayakovsky. Je considère qu'au moment où nous sommes, c'est un moment très difficile pour l'Afrique. Tant qu'il s'agissait uniquement de libérer l'Afrique du colonialisme, ça c'était la partie épique, si vous voulez, donc exaltante, difficile, parce qu'à cause des difficultés matérielles, enfin, il n'y faut que du courage. Tandis qu'après la libération commence un autre stade. Bon, la liberté ou l'indépendance, on l'a, mais qu'en faire? Et quelle voie choisir? Comment édifier la nation? Quel est le rôle de l'homme dans tout cela? Quel avenir on lui prépare? Comment va-t-on faire la synthèse entre le passé, la tradition et le modernisme? Va-t-on jeter par-dessus bord la tradition? Voilà, très pêle-mêle, toute une foule de problèmes que confronte à l'heure actuelle l'homme d'Afrique ou l'homme ex-colonisé. Il serait puéril de croire que la réponse est toute faite, cela n'est pas vrai. Et il me semble que ce sont ces lendemains assez amers de retomber de la ferveur. Et là, il faut plus que du courage viril, celui qui permet de prendre les armes, il faut autre chose. Et cela, à mon avis... ne peut de guerre être traité que par le drame. Donc, si vous voulez, je considère un peu que le théâtre, c'est la vie, mais la vie qui réfléchit sur elle-même. Eh bien, or, c'est ça l'Afrique à l'heure actuelle. L'Afrique est à l'âge où elle essaye de se comprendre, où elle se cherche, et essaie de comprendre son destin. Par conséquent, l'Afrique est arrivée à l'âge de la théâtralité.
Par rapport à la poésie, le théâtre a un autre avantage, si j'ose dire. C'est le fait qu'on n'est pas obligé de le lire.
Ah, bien sûr, c'est un formidable moyen de communication. Alors, si vous voulez, je considère que le moment de l'ésotérisme est passé, et maintenant, il faut se faire entendre, et il faut, sans renoncer à ses richesses intérieures, mais enfin, il faut établir la communication. Or, c'est un moyen magnifique que celui du théâtre, surtout si on le considère comme nous l'entendons en général dans nos pays, c'est un peu comme la synthèse de tous les arts, poésie, Je ne conçois pas un théâtre qui ne soit pas vraiment poétique, hein, poésie, mais aussi chant, mais aussi danse, plastique.
Alors Jérémy, ces paroles d'Aimé Césaire, est-ce qu'elles résonnent en toi encore aujourd'hui ?
Oui, ben, c'est bien parce que c'est ce qu'on il a développé, ce qu'on commençait, ce qu'on a amorcé précédemment. Le lien direct qu'il y a avec notre pièce, c'est quand il dit que pour une fois la première libération de la décolonisation faite, comment arriver à construire un autre système. Donc c'est le propre de la pièce, c'est le titre justement pour un nouveau système, comment se reconstruire une fois qu'on s'est débarrassé d'un premier joug. Comment ne pas recréer un ordre qui est pire. Et quand il dit que là, il faut autre chose que la force virile, on est entièrement d'accord avec ça, puisque nous, les textes d'Aimé Césaire sont dits justement par Corazon, par justement cette femme trans. Donc c'est extrêmement intéressant, puisqu'on fait le lien avec la négritude, qui est le mouvement poétique et politique dans lequel était Aimé Césaire. Mais c'est cette femme-là qui va donner le discours poétique d'Aimé Césaire, celui-ci étant de remonter à l'instant clé, à l'instant sans cesse différé, comme il lui dit, l'urgence de rétablir avec les choses un contact personnel, frais, contraignant, magique. Mais cette recherche-là qu'il a mise à jour, il est en grande partie resté du côté masculin. Même si c'était quelque chose dont il voyait les brèches, mais il n'a pas tellement continué dans cette voie-là. Et la culture de la domination dont il parle en tant que domination raciale, si on la met dans la bouche justement d'une femme trans, ça devient une domination raciale, mais également une domination par rapport à la question de genre qui s'ouvre extrêmement. Et on voit que tous les outils théoriques contre la colonie, pour combattre la colonisation, sont toujours d'actualité aujourd'hui, avec ceux par rapport du genre dont on entend parler depuis assez peu par contre.
Mais du coup, comment tu fais le parallèle entre... Parce que lui, il parle... Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cet extrait-là, c'est le fait qu'il dit... on ne peut plus combattre et lutter contre la colonisation, contre les idées colonisatrices qui sont même jusque dans nos cœurs, avec des armes. Et seul, enfin, c'est fini. Ce temps-là, il est passé, peut-être notamment parce que sur certains points, la colonisation, elle a gagné et que de toute façon, ça ne servira à rien de prendre les armes. Du coup, il dit pour lui, l'Afrique en est au temps de la théâtralité et moi-même, moi aussi. Genre, j'en viens à ça, je passe par là. Comment tu trouves que le théâtre aujourd'hui il peut avoir cet impact psychologique que peut-être il avait à l'époque d'Aimé Césaire en Martinique ou même pour tous les Noirs du monde qui subissaient les mêmes choses, ou tu penses que ça a pu changer le rôle du théâtre, l'impact psychologique sur les gens quoi dans cette lutte, dans ces luttes?
Non, le rôle du théâtre pour moi n'a pas changé, mais la différence c'est que dans les années 60 puis 70 jusqu'aux années 80, cette idée d'un art populaire et d'une émancipation sociale par la musique, par le théâtre, était extrêmement probante, était extrêmement répandue. Des intellectuels comme Césaire, comme Sartre, on ne les entend plus aujourd'hui. Non pas qu'ils n'existent pas, mais ils n'ont plus le même impact médiatique que ce qui était à l'époque d'Aimé Césaire. Je pense que c'est essentiellement ça qui a gagné, ou que nous avons perdu plutôt, c'est que dans la lutte économique, qui est toujours à l'avantage des pays anciennement colonisateurs, la culture de la domination, c'est cette culture de cette économie-là. Sans cesse. Donc la répression idéologique est encore plus forte aujourd'hui qu'elle n'était à celle de Césaire. Par contre, les outils d'émancipation qu'a mis en place Césaire, nous, on les utilise toujours sur scène. La comédienne, quand il dit qu'il faut revenir à un contact frais, personnel, magique au monde, quand il dit qu'il faut repuiser à sa propre culture, nous, c'est ce qu'on fait dans le théâtre. Quand on utilise les techniques de comédia dell'arte que les gens connaissent aujourd'hui à travers le one-man show, par exemple, pour donner la version la plus large, revenir à des techniques qui étaient utilisées à partir du Quattrocento en Italie, c'est repuiser à la culture même du théâtre. Donc à travers le discours poétique que portait Césaire, c'est toujours cette même chose qui se fait. Et là où je suis moins d'accord avec Césaire, c'est que je ne pense pas que le drame soit la seule possibilité. Je pense qu'effectivement, le drame doit être à l'intérieur des choses et des énergies, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur le mode de la comédie sociale, ou c'est en tout cas comme ça qu'on l'entend. La comédienne utilise un maximum de ressorts humoristiques pour faire passer justement de véritables drames. Elle utilise la magie du divertissement, la magie de jouer avec la lumière pour pouvoir arriver à quelque chose justement de beaucoup plus douloureux, mais ne pas afficher directement cette douleur-là, comme le faisait d'ailleurs davantage Césaire dans son théâtre, même si c'était pas dépourvu d'humour non plus, et même si encore une fois il faut rester humble, je compare pas ma propre écriture à celle d'Aimé Césaire,
qui est
un des plus grands poètes français.
Bien sûr, oui, parce que je précise que Jérémy Béchouin, dans le collectif Manifeste Rien, il écrit et il met en scène les pièces, c'est pour ça qu'il parle d'écriture. Mais après, est-ce que vous avez l'habitude de casser le quatrième mur ? Alors, pour préciser pour les auditeurs et auditrices, voilà, le quatrième mur, c'est un peu le mur qui est invisible entre le public et la scène, sachant que le fond de scène, les deux coulisses, ça fait trois murs, plus le quatrième qui est celui qui sépare les acteurs des spectateurs. On l'appelle le quatrième mur, et souvent dans le théâtre, j'imagine le théâtre d'Aimé Césaire, s'il faisait des tragédies, il devait respecter ce qu'on appelait le quatrième mur, et du coup les acteurs ne s'adressaient jamais, ne regardaient jamais, ne faisaient pas d'adresse publique. Est-ce que je sais que vous, des fois, vous jouez avec ça, de manière subtile.
Oui, il utilisait beaucoup moins que ce qu'on utilise nous. Oui, on est très souvent ce qu'on appelle en adresse directe au public. Il faut savoir aussi que dans nos pièces, c'est venu d'une volonté, mais c'est venu au fait également d'avoir joué beaucoup pour des publics populaires et que les gens au théâtre répondent très facilement. Donc en fait, au bout de 15 ans de cette boîte à outils qu'on a créée, même si on avait directement ce rapport, cette adresse directe au public, les outils techniques d'improvisation de Virginie Aymon, la comédienne, et Olivier Boudran, le comédien, se sont enrichis pour pouvoir répondre du tac au tac au public. Puisque les gens qui ne sont jamais allés au théâtre n'ont pas forcément le code qu'il ne faut pas répondre aux comédiens. Donc on s'est entraîné comme ça, comme des sportifs, à pouvoir justement répondre de plus en plus vite, ce qui était encore le propre de la Commedia dell'arte dont je parlais précédemment. Oui, ce qui rend extrêmement vivant, à notre sens, le théâtre.
Et du coup, les questions que vous soulevez.
Les questions qu'on soulève, ce qui n'interdit pas de revenir ensuite à une forme plus classique, où ce sont, même si Virginie Aymon joue sans cesse plusieurs personnages, les personnages se parlent directement entre eux, parfois, mais évidemment, avec énormément d'adresses directes au public. On peut peut-être d'ailleurs écouter, pour si le problème technique est résolu, le passage qu'on a nommé dans le fichier LSD.
Ouais. Où la comédienne dit, te proposer ça.
Avez-vous remarqué ?
Eh bien, on va écouter ça. Du coup, je rappelle que le collectif Manifeste Rien va jouer sa nouvelle pièce pour un nouveau système. Ce sera les premières, c'est ça, cette semaine ?
On avait joué cette pièce en 2018, c'est juste avant le confinement. Et là, on avait assez peu joué cette pièce. On l'avait joué au Théâtre de l'Œuvre, puis à la prison de Salon. Et là, c'est une reprise.
Une vraie reprise.
Du coup, c'est enrichi de près de deux semaines de répétition.
Puis c'est enrichi de cinq ans de situations parfois ubuesques en France et dans le monde.
Oui,
aussi, j'imagine.
Catastrophique. Donc on pourra passer à notre extrait d'ailleurs sur le distributeur de sécurité qui était terriblement en avance sur ce qui allait se passer durant le temps du Covid. Oui.
Du coup, voilà, je rappelle que vous pouvez aller voir cette pièce jeudi, vendredi et samedi de cette semaine, le 21, le 22 et le 23 à 20h au Théâtre de l'Œuvre, dans le quartier de Belzunce, rue Tubano, à Marseille. Et tout de suite, on écoute un extrait de la pièce pour un nouveau système du collectif Manifeste Rien.
Avez-vous remarqué que le LSD est la télé en couleur ? Sont arrivés sur le marché en même temps. On nous matraque d'invention. Mais que faisons-nous ? On interdit le LSD. Et on fait de la télé merdeuse. C'est peut-être mieux ainsi après tout. Non, il y a de bonnes raisons d'interdire le LSD. Dis-toi. Il y a de bonnes raisons d'interdire le LSD. Ah, on peut bousiller définitivement sa tête avec, hein ? Mais pas plus qu'au ramassage des betteraves. Ou en bossant à la chaîne, ou en faisant la plonge, en pointant à Pôle emploi. Ou en enseignant la littérature à la fac. Si on devait interdire tout ce qui nous rend dingue, mais toute la société y passerait. Les mariages, les guerres, les dates d'opération, les claviers. Après tout, tout peut virtuellement nous faire craquer. Oui, puisque la société repose sur des piliers.
Cette planète, c'est dans un mauvais trip.
Ouais. Oui, oui, c'est le LSD, c'est une métaphore, en fait.
Mais on t'arrêtera si tu avales une petite pilule. Non, c'est pas tellement une métaphore, c'est justement de voir ce qui est interdit, ce qui l'est pas, de voir les corrélations qu'il y a, que moi, j'avais jamais faites avant d'étudier ces textes-là, qui est pourtant très simple, hein, le LSD et la télé en couleur qui vont arriver en même temps, et de voir comment ce qui rend fou, ce qui peut rendre fou dans la drogue, c'est en fait une folie qui est déjà donnée à l'homme par les interdits sociaux qui le sclérosent, mais en fait la mauvaise réaction à la drogue, n'est-ce pas finalement que cette incapacité supporter cette cage à laquelle on est sans cesse réduite. Voilà, et dans ce texte-là, je pense qu'on entend justement bien ce principe-là d'une comédienne qui interpelle directement le public.
Bien sûr.
Et qui joue avec ses réactions. Là, il y a énormément, il y a des temps de silence qui sont des temps de mime ou de grimace, mais qui sont aussi des temps de réaction du public.
Et du coup, dans cette pièce pour un nouveau système, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes gens. Et ces jeunes gens, en fait, ils subissent ce que tu viens de dire. Ces brimades, ces interdits, ces injonctions en fait absurdes de la société, j'imagine.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en libère aussi. Mais comment s'en libérer sans exploser en cours de route ? C'est tout le parcours de nos personnages. Comment arriver à garder cette pureté de l'amour physique, comment arriver à jouir sans entrave dans une société qui nous l'interdit dans les années 60, ou comme aujourd'hui, comment arriver à jouir sans entrave dans une société qui s'est transformée en partie, puisque les pubs, la pornographie sont des choses, enfin les pubs qui utilisent les images sexuelles, justement les symboles sont beaucoup plus mis en avant que c'était à l'époque, mais l'interdit reste le même finalement. C'est ça qui est l'interdit apparent, ça se voit moins, mais ensuite cette réalité des sentiments là, un amour qui viendrait exploser tout ce qu'il y a autour, ça c'est encore extrêmement tabou.
C'est intéressant ce que tu dis.
Merci.
Non mais ça me fait écho à des choses que je peux vivre ou que je vois dans ma vie, mais comment en fait quelque chose, ouais. C'est comme si la société avait peur que ça la renvoie elle-même, soit individuellement, soit même en tant que société. Mais tu as dit plusieurs fois là le mot jouir, et dans un livre de Camus il dit j'appelle jouir le fait d'aimer sans mesure, d'aimer la vie au maximum sans mesure, et que la société aujourd'hui, elle dit qu'il est bête celui qui passe son temps à jouir ou à vouloir jouir. Et là, c'est un peu ce thème un peu ancestral des jeunes contre les plus vieux, de ceux qui sont dans la vie et qui suivent ce que leur corps leur dit et leur être leur dit, et ceux qui sont dans la raison peut-être...
Oui, mais sans aller non plus vers un hédonisme éhonté, sans non, cesse. C'est-à-dire, c'est comment se libérer du travail salarié, comment se libérer du poids de la famille, comment se libérer de l'intériorisation du poids de la famille qu'on porte sur soi-même. À travers cette recherche d'amour et de jouissance de nos personnages, c'est toutes ces questions-là, ou la question que posait aussi Aimé Césaire de la libération par rapport à la colonisation. Comment se libérer du regard du colonisateur, de l'infériorité qui a été admise pendant tellement longtemps que l'individu colonisé a fait sienne cette identité-là, même s'il se bat encore aujourd'hui. Tous ces rapports d'infériorité-là, comment il est possible de s'en libérer ? C'est possible par la magie de l'amour, c'est possible par la magie de l'art, c'est possible justement en réinventant sa vie.
Et c'est possible aussi, parce que c'est du coup une pièce qui, dis-moi si je me trompe, mais nous montre comme un parcours initiatique quand même de deux jeunes gens, avec quelqu'un qui va être une forme de mentor dans l'histoire et qui est représenté par Corazon, personnage inspiré du film d'Almodovar.
Oui, qui est un personnage pivot, qui est un personnage omniscient, qui peut très bien parler directement au public.
C'est un peu une forme de narrateur aussi.
Oui, c'est aussi un narrateur et qui peut passer de différents niveaux, différentes réalités assez facilement justement par son personnage de narrateur, comme tu dis, en l'occurrence de narratrice.
Et alors, moi j'ai le communiqué de presse, et la jeune fille, personnage principal de l'histoire d'amour, la jeune femme quand même, vous avez choisi de l'appeler Siri.
Alors, ouais, ça s'appelle Siri, on l'a gardé parce qu'il y a un jeu sémantique sur ça, mais en fait, Siri, la véritable orthographe, mais ça les spectateurs, spectatrices ne peuvent pas le savoir, c'est S-I-2-R-I. C'est pas
c'est le téléphone.
C'est pas la Siri du Moyen-Orient. C'était un prénom nordique, puisque Dagerman était un écrivain suédois. Mais on a gardé ce terme-là de Siri parce que là on trouvait la polysémie assez intéressante.
Ok. Et il n'y a pas forcément de lien direct avec une volonté de raconter soit l'histoire de la Syrie récente, soit d'intégrer la Syrie à toutes ces questions de libération.
Non.
Au départ, non.
Non.
Ok. Et alors, on va peut-être écouter un autre extrait. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a un qui te semble intéressant à faire écouter aux auditeurs auditrices maintenant ?
Celui qui suit, peut-être en ne faisant rien, l'individu agit.
Ouais. On va voir tout de suite, c'est ça ? Tu nous laisses découvrir ?
Ouais.
Allez, en ne faisant rien, l'individu agit.
Agit, hein. Ben, prenons par exemple un groupe de gens, hein, installés dans un bolide comme ça, qui foncent tout droit dans le précipice. Eh bien, en voyant l'individu assis là, sur le bord de la route, à ne rien faire, eh ben il crie : est-ce que vous êtes négatif ? Regardez-nous. Nous faisons vraiment quelque chose, nous. Nous allons vraiment quelque part, nous.
En ne faisant rien, l'individu arrive.
L'individu agit, c'est ce que dit, c'est le propre de l'idéologie de l'anarchisme, c'est-à-dire à travers cette boutade dont on entend, c'est que c'est la seule manière d'agir positivement contre l'État. Parce que justement dans ce choix dont je parlais de l'anarchisme intervient presque toujours la prise de conscience que la faillite, c'est là de ces gens qui agissent mais qui tombent dans le précipice comme le joue la comédienne, ces idéologies qu'elles soient nazies, fascistes ou libérales, ou même socialiste autoritaire, c'est que cette faillite-là ne se manifeste pas seulement par la quantité de ruines, de morts ou d'infirmes dans les pays directement atteints par la guerre, mais également par la quantité de névroses et de manque d'équilibre et de cas de folie dans les pays apparemment épargnés comme la France. C'est à cet endroit-là que, encore une fois, cette revendication qui peut paraître complètement primaire de ne vouloir rien faire peut être une forme d'action encore aujourd'hui beaucoup plus forte que se lancer dans la masse sans cesse de travail, de production.
C'est intéressant en plus parce que souvent on entend que, ce qui n'est pas faux, hein, enfin, que quand on n'agit pas, notamment face à une injustice directe, voire face à des problématiques plus lointaines et plus difficiles d'accès, quand on n'agit pas, on participe un peu à la façon d'un voyeur ou un peu à la façon dans certains films de Pasolini, je pense à ces 120 journées de Sodome, où à la fin on voit les gardes qui regardent de la fenêtre et puis qui dansent en mettant de la musique. On peut tous un peu dans la société avoir entendu cette phrase « ne pas agir, c'est agir Enfin, tu vois, ne rien faire, c'est agir pour l'oppresseur, tu vois.
Oui, c'est
intéressant. Et toi, tu viens, tu dis un truc qui est un peu différent. Tu dis, en fait, ne rien faire dans cette société où tout le monde fait des choses, c'est une manière de marquer un territoire aussi, de marquer une pensée, c'est ça ?
Oui, c'est le propre de la théorie anarchiste. Je pense que face à l'injustice, il faut prendre position, il faut agir. De manière intellectuelle, si on est un intellectuel ou un artiste, ou si même dans la rue il s'agit d'agir contre l'injustice, oui. Par contre, il s'agit de ne pas réagir justement aux injonctions qui sont sans cesse faites de devoir produire sans cesse plus de richesses ou de devoir faire quelque chose de sa vie qui soit forcément en lien avec un système éducatif qu'on nous présente ou des volontés parentales ou justement le poids de ce système éducatif et parental. À cet endroit-là, dans le système de production capitaliste, tel qu'on le vit depuis très longtemps, justement se mettre en retrait, arriver à avoir une zone d'autonomie, c'est déjà arrivé à se changer soi-même, donc c'est déjà arrivé, même si ça peut paraître très naïf, à changer en partie le monde.
Mais alors, outre le fait de gagner sa vie, comme on dit, de gagner du fric pour vivre sa vie, qui peut être une des raisons pour laquelle on ne fait pas rien, outre cette raison-là, comment tu fais ? Est-ce que tu abordes dans la pièce ? Parce que moi, c'est ça qui me questionne quand je t'entends dire ce que tu dis. Les gens, je pense, et moi compris, on a la sensation que... Enfin, humainement, si on fait rien, on n'est pas reconnu par les autres, par une société, par un groupe, quel qu'il soit, même si c'est un groupe qui n'est pas l'État, qui est un petit groupe de gens, mais on a la sensation qu'il faut faire quelque chose. Et comment tu fais pour lutter contre cette sensation quand elle est très présente partout, très forte ? Comment tu fais pour décider de dire, en fait, moi je vais, quitte à vivre RSA, avoir moins selon les pays, je vais décider de jamais travailler si je ne suis pas totalement intègre avec moi-même.
Non, mais après, il y a une impossibilité. Il faut bien bouffer, il faut bien manger, il faut bien travailler. Il ne s'agit pas de.
Mais comment tu. Imagine, tu arrives à être en accord avec ça.
À moins d'être nanti. Moi, je ne suis pas. Je suis ni prédicateur, ni un homme politique. Je sais que les personnages de notre pièce, dans lesquels on met justement nos propres désirs, arrivent à se libérer, puisque justement, cette jeune fille, à travers Siri, qui veut vivre cet amour-là, elle va qui c'est elle qui dit qu'en ne faisant rien, l'individu agit contre l'État, elle va déjà devoir se libérer de sa propre famille. Donc c'est déjà l'État dans l'État, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller à la Chambre des députés dans un premier temps, c'est arriver à se défaire du poids de l'autorité de sa mère, de sa sœur, qui veulent l'enfermer dans le clan de son village paysan. Elle va aller au-delà de ça. Elle va créer une autonomie de pensée, une autonomie d'amour avec cet homme-là. Voilà, pour moi c'est aussi simple que ça.
Et du coup, c'est des choses qui, si tu avais un message à donner à tous ces jeunes gens qui pourraient être enfermés dans des carcans familiaux, tu leur dirais quoi ? Pour avoir confiance, quoi.
Je ne crois pas que la question se pose là. Comme disait Joe Starr dans NTM quand il était plus jeune, on ne fait pas partie de la solution, mais plutôt du problème. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille sans cesse donner des solutions, c'est qu'il faut être capable de poser le problème différemment. Ça, je pense qu'il y a plus de solutions qui peuvent émerger là que donner un simple conseil.
Ouais, ok. Et on va écouter un autre extrait.
Mm-hmm. À la suite, peut-être justement sur cette dont on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que la France aujourd'hui, comment l'être après l'histoire qu'elle a vécue et que nous continuons de vivre. La France, pays des droits de l'homme.
La France, pays des droits de l'homme. Oui, enfin bon, la femme, l'indigène et le nègre, ben c'est venu après, hein, longtemps après. Et puis alors, la femme, indigène et nègre, ben pas de bol. Non mais je veux dire, 3 siècles d'esclavage, 5 siècles de colonisation, mais c'est le palimpseste de la déclaration. Difficile d'effacer l'ardoise, je veux dire. De toute façon, la colonisation, ça décivilise d'abord le colonisateur. Bah si, ça l'abrutit. Ah bah ça le dégrade. Ça le réveille, là, des instincts enfouis. Tiens, à chaque fois qu'au Vietnam, il y a un œil crevé ou une tête coupée, et qu'en France, on accepte, une fillette violée, et qu'en France on accepte. Un malgache supplicié et qu'en France on accepte. Il y a quand même un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, là. Il y a une raillation universelle, là, qui s'opère. Une gangrène, là, qui s'installe. Un foyer d'infection qui s'étend.
Il est pas mal, ce texte. Et alors, comment tu fais pour être soutenu par les pouvoirs publics? Dis-moi, Jérémy. Quand tu dis des choses aux nains, c'est une vraie question en plus. Ça les dérange jamais?
Si, si, c'est comme dit Corazon dans la pièce, être authentique, c'est un combat de chaque jour. Et c'est jamais acquis. Très personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer Badra Deloum, qui travaillait à la DRJCS, et qui était parce qu'elle a la...
Qu'est-ce que c'est la DRJCS?
À la direction de la jeunesse et des sports,
ah oui, okay.
Et régionale. Mmh. Mais peu importe, je pense qu'elle aurait pu être dans d'autres institutions. Elle m'a montré de comment ces thématiques-là pouvaient être utilisées, puisqu'elles le sont sans cesse, puisqu'on entend bien parler de l'histoire de la colonisation au Mucem, à la Criée, sans cesse. Sauf que de mettre en avant non pas la violence première qui peut se passer sur scène, même si c'est par le biais de l'humour, mais de pouvoir donner la rhétorique qu'attendent les institutions, à savoir celle de la mémoire, celle du partage.
Bien sûr.
Donc c'est ce que disait aussi Alessie Dell'Umbria.
Alessie Dell'Umbria, qui est un poète marseillais.
Non, il n'est pas poète. Enfin, il a fait de la poésie aussi, mais
c'est un écrivain.
C'est un écrivain, ouais. Écrivain, essayiste. Que les quand dans l'histoire universelle de Marseille, qui dit que les Marseillais ont eu la capacité à travers l'histoire de, comment il dit ça, de jouer le double langage de l'État à leur avantage.
Ouais.
Et c'est sans cesse à cet endroit-là.
De pas se placer trop en conflit
direct,
mais de jouer avec les mots, de jouer avec ce qu'on attendait d'eux, quoi.
Après, je pense aussi que c'est parce que réellement, Badra Deloum nous a énormément aidés, mais elle a pu faire venir des gens aussi à nos spectacles qui ne venaient pas parce qu'on était moins connus à l'époque et qui ont vu l'utilité de faire porter ces thématiques-là sur scène. Voilà, ensuite, on est soutenu beaucoup par les politiques de la ville, également parce que c'est la paix sociale que les politiques de la ville achètent à travers des associations qui travaillent dans les quartiers populaires. Donc il y a aussi toujours à avoir conscience de ce double outil, c'est qu'on est, à notre sens, on présente des outils d'émancipation, mais on peut aussi apporter un certain calme dans des quartiers qui sont extrêmement mal famés, et parfois à tort. Il faut voir ce qu'on a pu entendre dire dans certains quartiers où les gens ne voulaient pas venir, ne voulaient pas garer leur voiture, ne voulaient pas. Et on travaille encore sans cesse. Là, dans la rue Belzun, c'est énormément de gens au Théâtre de l'Œuvre qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur de ce quartier, même si c'est un théâtre et non pas des MJC, non pas des centres sociaux dans lesquels on peut travailler. Mais c'est cette utilité sociale-là. C'est aussi possible parce qu'il y a tout, chez Manifesterain, il y a tout un travail aussi d'atelier de médiation qui se fait dans les quartiers avec Vanessa Pedrotti, avec Pauline Bernard, qui permet justement de montrer le théâtre à des gens qui ne vont pas au théâtre et de leur donner envie de franchir les portes du Théâtre de l'Œuvre, par exemple. Tout cela, ce sont dans les missions de l'État.
Bien sûr. Voilà.
Donc il faut être capable de relever ces missions-là en les remettant à notre propre niveau.
Et alors, justement, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu. C'est les représentations qui vont avoir lieu cette semaine, là, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 septembre, pour le spectacle Un Nouveau Système, pour Un Nouveau Système. Est-ce qu'il va y avoir, des débats, des ateliers de médiation qui vont avoir lieu avant ou après la représentation?
Oui, ouais, il y a dans les centres sociaux avec lesquels on travaille, des quartiers sud et des quartiers nord, à qui la pièce est présentée. Et on a une représentation où où ces publics-là viennent spécialement, enfin, on fait une représentation spécialement pour eux, voilà. Parce qu'également, dans les quartiers populaires, c'est pas forcément possible de se déplacer à 8h du soir quand on est au fin fond des quartiers nord. Donc, on trouve toujours un créneau qui correspond mieux aux familles pour pouvoir venir nous voir jouer.
Alors, on a quelqu'un qui vient de nous appeler. Bonjour, monsieur. Allô, allô, vous nous entendez?
Alors, techniquement, il faudrait Lucas, parce que je crois qu'il ne sait pas doué.
Oui, vous nous entendez, monsieur?
Moi, je vous entends très bien, Charles.
Ouais. Eh ben, Jérémy, tu l'entends?
Oui. Oui.
Très bien. Eh bien, on vous entend très bien, monsieur. Vous voulez partager quelque chose avec nous?
Moi,
vous êtes sur La Rosée, du coup, avec Jérémy Deschamps, quoi, qui se manifeste rien.
Ah ben, j'ai bien entendu, j'écoute l'émission, là. Et du coup, je voulais partager la chronique du dé.
Eh bien, oui, mais la chronique du dé arrive. Elle est en train d'arriver. Allô? Bon, on vous entend mal, monsieur, mais sachez que la chronique du dé arrive. Je sais qu'il est très apprécié dans cette émission. Il arrive incessamment sous peu. Monsieur, vous êtes sous un tunnel, alors c'est un petit peu comme...
Non, je suis pas sous un tunnel, c'est... Donc, qu'est-ce que je m'entends pas? On va bouger. C'est une vraie proposition de faire un manifestorien. Alors, je vais bouger les sondages quand est-ce que je suis audible.
Mais là, vous n'êtes pas très audible. Non, vous n'êtes pas audible, si vous êtes comme sous un tunnel, monsieur.
Et là, est-ce que c'est mieux, là? En pleine nature, est-ce que là, tu m'entends dans le vent?
Ouais, c'est mieux.
Là, c'est mieux, ouais. Bon, alors, il faut dire à Jérémy du collectif manifestorien...
Il vous entend, monsieur, il vous entend.
Bon, super. Qu'il faudrait qu'il contacte l'association La Strada dell'Arte sur le Paris 18e pour qu'il y ait le manifeste qui puisse jouer au Festival solidaire des arènes de Montmartre 2024. Voilà, parce que je trouve que ça serait pas mal que, tu vois, dans un haut lieu de la commune de Paris, il y ait des choses qui soient dites et qui sont intéressantes à entendre.
Okay. Sur ce, le festival s'appelle La Strada?
La Strada dell'Arte, l'association La Strada dell'Arte.
Okay.
Cette année, c'était la 11e édition du Solidaire des Arènes de Montmartre, qui se passe du début septembre, généralement c'est du 4 au 19. Moi j'y étais, j'ai vu du théâtre, j'ai entendu des bons concerts, mais je pense que le collectif manifeste rien, il devrait y aller. C'est voilà. Je lui souhaite de trouver le contact, c'est Stéphane Mire, qui est le directeur artistique de cette petite association qui se bouge pour justement faire jouer des gens qui ne peuvent pas jouer à Paris parce que c'est compliqué. Et bien là, c'est en plein air, c'est dans un lieu où les gens ont donné leur sang pour un avenir meilleur. Et je pense que ça aura toute sa place. Bon, allez, des bises.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ben, Jérémy, est-ce que tu connaissais la Strada dell'Arte à Paris?
Non.
Non, c'est une découverte.
J'ai noté le contact.
Bon, et ben voilà. Oui, apparemment, j'en ai entendu parler, c'est très intéressant. Voilà, okay. Les arènes de Montmartre, festival de théâtre, de musique, tu pourras les appeler. Ça nous a un petit peu coupé, de quoi parlait-on? On va peut-être passer la chronique du D7.
Allons-y, puisqu'elle a été réclamée, c'est le moment.
Elle a été réclamée, elle parle de choses dont on parle, elle parle notamment d'intégrité. Du coup, on va écouter ça tout de suite.
Salut la Rosée, c'est la rentrée, c'est le D7, voire peut-être un peu plus aujourd'hui. Alors un peu particulier, vite fait les conditions. Le son, j'espère qu'il ne sera pas trop mauvais. Dis-toi bien qu'il est actuellement 6h50 du matin. Je me trouve en plein dans les arènes de Montmartre, au lieu bien sûr de la commune de Paris, il y a un peu plus de 100 ans. Voilà, du sang a coulé ici et ça me faisait plaisir de faire ma chronique là. De toute façon, j'ai pas le choix, puisque je suis pas à Marseille et que l'émission est dans quelques heures. Une grosse bise tout d'abord, Lucas, il est là à la technique. Mon petit padawan, Ilan, qui m'a contacté hier pour me dire « Tu fais une chronique ?» Avec plaisir. Et bien sûr, Jérémy et Virginie de Manifeste Rien. Moi, je vais manifester déjà une chose, c'est qu'à chaque fois, je les rate. Dès qu'ils font un spectacle, je ne suis jamais à Marseille. Quand ils sont là, je n'y suis pas et je ne peux pas échanger avec eux. Donc vite fait, parler de leur pièce, mais ils vont le faire pendant une heure et demie. Je ne vais pas abuser. Par contre, ce qui me plaît, c'est que je ne connais pas Stig Dagerman. J'adore Aimé Césaire. Et tous mes sosses, je les appelle négros depuis l'âge de 16 ans. Et dis-toi bien que je ne suis pas prêt d'arrêter. Alors les négros, on est prêts? Et ouais, c'est parti, c'est comme ça. Donc la pièce, j'aurais aimé la voir. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, elle parle de ce qu'on ne veut pas parler. Elle parle de nous. De nous, de nous. C'est qui ce nous? Puisque tout le monde le fait, les journalistes, les Français, eux disent « Mais les gens, et ceci ?» Non, ce nous qui fait force de loi pour moi, ce nous populaire, ce nous de l'éducation populaire, ce nous des gens dont on n'a pas envie de parler, qu'on ignore, parce qu'ils sont différents, différents dans leur approche de la vie, différents dans leur approche de l'amour, différents simplement parce que, loin du nihilisme pour moi, parce que les désirs, ça se vit, ça se prend, ils sont surtout intègres. Intègres dans ce qu'ils sont. Je ne te dis pas qu'ils réussissent tout, je ne te dis pas qu'ils font même du mal. Non, mais ils sont intègres. Et moi, c'est de cette intégrité-là dont j'aimerais parler ce matin. Vois-tu? Parce qu'au-delà de la pièce dont vous allez énormément parler, et dont je suis le moins bien placé pour parler actuellement, ce qui m'intéresse, c'est l'humeur de Manifeste Rien. Et ça, si tu veux, l'humeur, ça ne s'achète pas. Ça se vit, ça se vibre, ça se ressent. Et j'espère qu'ils vont aller au bout des choses, simplement pour que les auditrices et les auditeurs, au-delà d'avoir envie d'aller les voir, ils aient envie de redevenir eux-mêmes, de se présenter sur la place publique. Loin de tout ce qu'on voit aujourd'hui, ces lobbying qui, soi-disant, sont là pour protéger, assurer et montrer qu'il existe des façons différentes d'être, que ce soit dans le combat donc, contre le patriarcat, le fait de pouvoir être ce qu'on a envie, hein, quel que soit son genre, sa sexualité, etc. Non, j'aimerais qu'aujourd'hui, on passe au mode intégrité. Et du coup, je ne vais pas vous parler d'eux, je vais vous parler du cannabis. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai un ami à moi, qui est un petit peu plus jeune que moi, une quarantaine d'années, papa de 4 enfants, un mec qui se tient, tu vois. Il a eu la joie d'être contrôlé il y a peu par les gendarmes. Alors, c'est pas un consommateur effréné, hein, mais c'est quelqu'un voilà, qui, de temps en temps, bien sûr, utilise du cannabis. Alors, pourquoi ? Ben parce que déjà, il y a tout un tas de substances qui te permettent, eh ben, je te dirais presque de te libérer, tu vois, de te libérer de tout un tas de choses et de tout un tas de poids que la société normée a le bonheur de te massacrer avec ou de te plomber ta vie, oui. Je te parle de lui parce qu'il fait partie de ces gens comme mes parents, comme mes frères et sœurs, moi, tout, complètement pas, hein, je te promets. Et puis je l'assume et j'adore ça. Ont toujours été, mais alors je te promets, le doigt sur la couture, ont toujours donné un magnifique exemple de ce que ça peut être la soumission non volontaire, mais parce qu'ils croient. Ils croient en ce pays, ils croient en certaines valeurs. Et moi, ça m'a toujours déprimé. J'ai toujours été en conflit avec eux, si tu veux, parce que c'est des gens qui se tiennent vraiment sur tout, qui ont toujours tout fait bien, machin et tout. Et ben mon pote, c'est comme ça. Et là, il se fait contrôler. Pourquoi ? Parce qu'il est allé au resto avec sa femme, qu'il a des douleurs au dos, parce qu'il fait, tu vois, il travaille dans les poubelles, tu vois. Ce que moi, j'appelle les premiers de corvée, qui sont nos premiers de cordée, tu vois. Tous ces gens qui permettent à tout un chacun de pouvoir vivre mieux dans leur vie et dont on nomme applaudir ces gens-là. Souvent, on se gosse aussi d'eux de manière plus discrète et vicieuse. Vois-tu ? Et donc, il se trouve aujourd'hui qu'il pourrait être suspendu 6 mois. Mais comment faire quand tu es suspendu 6 mois si toi, tu conduis ? Tu vois, au-delà de ramasser les bacs et les conteneurs, tu conduis aussi le camion qui permet de les emmener jusqu'au lieu de traitement, vois-tu ? Et donc là, il est embêté, il est obligé de trouver des solutions, et alors que c'est un mec bien, tu vois, loin de ce que moi je peux être par rapport à cette société. Et pourquoi je te parle de lui ? C'est pas de me servir de lui, c'est simplement qu'il y a une jurisprudence, Pierre Palma, dont je n'ai strictement rien à foutre, et dont je n'ai même pas envie de parler, ni du point de vue esthétique ou artistique. Mais du coup, la politique se saisit. Hein. Je te rappelle que notre pays n'est pas dirigé par la politique, mais par la mafia. Je te le dis à chaque fois, mafia et république, va regarder ça. C'est un triptyque. 3 documentaires de 52 minutes, produits par Arte en 2012, et tu sauras qui dirige ce pays. Bon, quand tu es Marseillais, tu sais bien qui dirige ce pays, tu sais bien que Benoît Payan, qui lui ne consomme pas du cannabis, hein, mais par contre j'aimerais bien qu'on le teste, lui. Comme on pourrait tester énormément de policiers à qui j'ai eu affaire, notamment à Noailles. Je te raconterai une petite histoire dans peu de temps. Donc je reviens à cette histoire jurisprudence Pierre Palmade. On veut chasser le consommateur. Mais le consommateur de quoi ? Le fameux consommateur de cannabis qui, lui, va écraser des gens, etc. Non, je crois que c'est le consommateur de drogue de synthèse, de drogue de cocaïne et de drogue tout à fait légale qui s'appelle notamment l'alcool. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Pas de jugement dans l'histoire. Mais ce qui me dérange, au-delà de tout ça, c'est l'hypocrisie. J'ai envie d'intégrité, d'accord ? Comment tu pourrais te demander si un Sarkozy, un Chirac qui l'a dit, hein, ou un Macron, un excité du bulbe, c'est notre projet ! Ben peut-être qu'il est plugué, notre ami Macron. Ou peut-être qu'il consomme lui aussi des drogues. Mais est-ce que ces gens-là, on va les tester ? Est-ce que ces gens-là, nous allons les tester ? Jamais. La petite digression que je faisais, c'est je me suis retrouvé, à Noailles, au commissariat de Noailles il y a quelques années, une histoire sordide. D'ailleurs, avec quelqu'un de galère, c'était amusant, une espèce de faquin traître qui traîne toujours, malheureusement. Et là, je me retrouve arrivé dans les couloirs, déambulé, et je tombe sur une scène assez hallucinante. Je vois donc un OPJ, un officier de police judiciaire, en train de parler un vieux gars, un daron, ce qu'on appelle un papa, tu vois, et lui dire « Oh alors, t'es encore là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Tu trafiques le médicament. » Et en regardant cet officier, je te promets que si j'étais un rat de laboratoire qu'on utilisait pour tester tout un tas de produits, je serais excessivement jaloux du personnage, vois-tu ? tellement les yeux étaient exorbités et tellement tu voyais dans sa gestuelle, non pas quelqu'un qui serait comme moi bipolaire à tendance maniaque, tu vois, mais plutôt un gars qui était chargé comme une mule. Et alors lui, on lui dit quoi ? Est-ce qu'on va les tester tous les matins, ces braves Pandore ? Vois-tu ? Tu le sais bien, pour moi, ni milice d'État, ni milice privée. Mais va-t-on les tester ? Allons-nous tester tous ces braves politiques ? Jamais. Allons-nous tester les avocats ? Je connais des tonnes de gens qui ont des postes que certains diraient respectueux ou de notables. Ils sont chargés, mon ami. Mais par contre, ils ont des petits produits pour effacer, ou ils connaissent suffisamment de monde, etc., etc. Donc vois-tu, ce matin, je voulais parler d'intégrité. Parce que je suis fatigué qu'à chaque fois, ce soit toujours les mêmes, si tu veux, sur qui on tire, les mêmes qu'on écrase. Effectivement, on est encore à genoux et effectivement, ils sont encore debout. Alors manifeste rien, Virginie, Jérémy. Je sais que dans votre pièce, il y a tout un tas de choses. Et en parler sans l'avoir, c'est un petit peu déjà me trahir. Et je déteste ça. Donc, j'espère que vous serez large. J'espère que ce matin, enfin, les petits mots que je vous prononce, non pas, vont pas vous motiver, vous n'avez pas besoin de ça, et j'ai déjà entendu vos interviews, je sais ce que vous faites. Je suis un fidèle de la Rosée, ceux qui le sont aussi vont vous reconnaître. Donc j'espère que vous rejouerez cette pièce, mais loin de tout patriarcat, etc., etc. Moi, mon fonctionnement, il est simple. Ni exploitation, ni domination. Vivre libre. Il y a des gens comme Auguste Blanqui qui ont fait des choses extraordinaires. Un petit coucou de la commune pour rappeler qu'il y a des gens qui sont morts pour croire et vivre un ailleurs meilleur. Sur ce, je vous laisse. C'était un D9. Des bisous, de l'amour. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera pour vous. Et surtout, jusqu'au bout, on lâche rien.
Merci, merci David pour cette chronique, ce D9. Merci pour ce rappel d'intégrité dont on a beaucoup parlé dans l'émission. Alors Jérémy, cette semaine avec le collectif Manifeste Rien, vous revenez sur Marseille au Théâtre de l'Œuvre jeudi, vendredi et samedi, le 21, le 22, le 23 à 20h avec Pour un nouveau système. Et dans Pour un nouveau système, vous parlez de beaucoup de choses dont a parlé David au final, même s'il n'a pas vu la pièce. Hein, un rapport à soi, un rapport à l'amour, un rapport à l'intégrité et un rapport aux autres, notamment dans tout ce qu'on fait pour s'en évader. C'est drôle qu'il ait parlé de ça. Alors que tout d'abord, dans le début de l'émission, on a parlé de LSD, de comment en fait on pouvait nous empêcher certaines choses, mais en fait, c'est pas vraiment le produit qu'on nous empêche, c'est de partir. C'est ça, c'est de, oui, c'est de sortir des griffes du système.
Et quand la comédienne évoque le LSD, qui est apparu sur le marché en même temps que la télé en couleur, c'est-à-dire que c'est aussi quelles sont les drogues coutumières comme la télé, comme les réseaux de Facebook ou de TikTok, qui sont des formes de drogue, d'altérité du cerveau, de non-emprise sur le réel, qui n'ont pas d'altérité directement physique, mais qui en ont intellectuellement, sans pour autant dire que parce que les gens regardent la télé, ils sont incapables de s'en libérer. Je pense qu'il faut faire aussi attention à ce discours-là.
Oui, bien sûr. Et en même temps, oui, c'est de la même manière qu'on dit qu'on peut se libérer des drogues ou pas. C'est des choix de vie, mais des fois, je trouve que c'est des fois plus compliqué parce qu'il y a des idées et des manières de consommer la vie qui nous sont amenées par la télé, alors qu'elles ne sont pas amenées par les drogues. Tu vois ce que je veux dire ? Les drogues, c'est un rapport personnel à celle-ci. Peut-être social, la télé, c'est des idées, c'est de la politique, c'est facile de vite tomber dedans, je trouve. Mais justement, toi, tu fais pas de la télé, du moins pas pour l'instant.
Non.
Tu fais du théâtre, et c'est quand même très différent. Je pense que tu le fais pas pour rien, tu fais pas de l'art vivant pour rien. Peut-être que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, dans cette question d'intégrité. Il y a quelque chose qui passe peut-être mieux quand on voit les gens en vrai, même si c'est sur une scène, qu'à la télé.
Oui, moi c'est mon humble avis, mais pour faire le lien avec justement cette question du théâtre et de la chronique qu'on vient d'entendre, c'est que quand celui-ci dit qu'il est contre un système d'exploitation, oui, mais ce système d'exploitation, les exploiteurs ayant existé, ayant forgé une culture, quelle culture nous ont-ils transmis, quoi qu'il arrive ? Donc encore une fois, c'est se libérer, oui, mais qu'est-ce qui va rester et comment arriver à se défaire de ces chaînes-là ? C'est là où la comédienne joue avec humour ces différents personnages qui se retrouvent coincés, là où à chaque fois ils se libèrent. Et pourtant, ils continuent d'avancer sans cesse, comme la comédienne dans le spectacle avance d'émotion en émotion avec le public, puisque c'est le propre du spectacle vivant. Oui.
Est-ce que tu penses qu'il faut se méfier de la révolution dans le sens où qu'est-ce qui vient après ? Qu'est-ce qu'on met en place après ?
Oui, c'est la question qui s'est posée, que ce soit en France dans 1789 ou que ce soit en Algérie plus récemment. Oui, évidemment, comment l'ordre qui va se mettre en place ne va pas être plus inique. Oui.
Oui, j'imagine que c'est pas une réponse toute faite. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien, avant qu'on refasse des présentations de la pièce, des dates et tout, qu'on écoute un petit extrait d'un slammer béninois qui s'appelle Kamal Radji et qui, je trouve, fait écho à tout ce dont on vient de dire. Voilà, si ça te dit.
Volontiers.
Ça s'appelle Assume ta jeunesse, ça a déjà 11 ans, mais bon, ce sera toujours d'actualité, je pense. C'est parti.
Depuis 1960, mon pays va de vague en vague et divague. Un demi-siècle qu'on rentre dans le mur et le développement rend le largue. C'est vrai, c'est la faute à personne, car du béninois à l'africain, on attend que l'heure de Dieu sonne. How can I tell you that the life you live is not your own? Je ne t'apprends rien, c'est sûr, nous savons tous que la vie est dure. Excuse cette tête de slammer, elle pense qu'ici nous vivons dans une folie générale, que tout le monde est fou. Excuse-la aussi, parce qu'elle pense que la surdité n'est pas seulement cette maladie où l'on a les oreilles bouchées, parce que tout le monde est sous. Ma jeunesse, son problème c'est swag is no question. Maybe Gaddafi is crazy, maybe it's not your problem. Faudrait peut-être penser à brûler le yes weekend, montrer le yes Africa you can't, afficher le Obama is dangerous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la savane, l'Afrique. Ici nous savons très bien qu'émander, oui, mes pères et moi nous savons très bien demander de l'aide. Comment pouvons-nous penser que c'est parce qu'un noir est à la tête de la plus grande mafia du monde, de la plus grande puissance économique du monde, il allait penser à nous? L'Amérique a ses problèmes et ses intérêts, c'est tout. I would love to live in the country where you don't pay light and water. J'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le litre d'essence est 55 francs, où la bourse de l'étudiant est 1647 euros, soit le salaire d'un Français. My history teacher told me, your country is independent, but it's not true. Parce que nous ne sommes même pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux, dira mon ami Giovanni. Dans mon pays, la tête qui pense, l'Union africaine, est appelée une tête folle. Je comprends pourquoi ce vieux président qui n'est pas beaucoup allé à l'école les a tous traités d'intellectuels tarés. Dans mon pays, l'heure de l'abrutissement, c'est 20h30, feuilleton. De Marimar à Ruby ou de la fille du jardinier à Yuri, on aura tout vu. Et ma jeunesse, cette jeunesse qui devrait changer les choses, une partie d'elle traîne dans le « Wesh, my nigga, viens pas me test, wesh, je suis le best. But let me tell you, my nigga, that this way is wrong. » Tcho! Ici, les gens se désolidarisent. Nous vivons sans le savoir dans la plus belle des crises. And you can ask my friend what I'm saying. I say, do what you have to do and let's even do the remaining. Born black, they call me black man. But I'm not black in my heart. I'm not black in my mind. Adieu Thomas Sankara, parce qu'il a compris trop tôt ce qu'ils comprendront très tard. Ma jeunesse n'a plus de héros, n'a plus de modèles, à part ces vendeurs de sexe, hommes corrompus, vendus de leur race, qui traînent dans nos télés. Ils ne savent rien de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Samori Touré. Mais cette jeunesse ne doit pas être une jeunesse de révoltés, mais une jeunesse de revolution. L'esprit est lumière, il a reçu la lumière sacrée. Noir de peau, oui, mais pas noir dans la tête. Blanc de peau, mais pas noir dans la tête. L'esprit doit conduire ma jeunesse à rendre possible aujourd'hui l'impossible d'hier. No limit generation. Vas-y, assume ta jeunesse. Enfoiré.
Et bien voilà, c'était le slammer Kamal Radji, un Béninois qui a fait ça il y a 11 ans, Assume ta jeunesse. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, j'avais bien envie de partager ça avec vous et avec toi Jérémy, parce qu'en fait c'est les mêmes thématiques, et oui. Puis c'est l'Afrique.
Effectivement, c'est la
coup,
même
c'est,
thématique.
C'est des gens qui ont subi ça, qui ont subi des problématiques coloniales. Voilà, du coup Jérémy, avec le collectif Manifeste Rien, cette semaine vous jouez pour un nouveau système, mm-hmm. une histoire d'amour en fait. Entre deux jeunes gens parrainés par un troisième personnage haut en couleur, Corazon, mm-hmm. qui se joue du coup le jeudi 21, le vendredi 22 et le samedi 23, à 20h les trois soirs, au Théâtre de l'Œuvre, à Marseille, à Belzunce. Vous pouvez retrouver Manifeste Rien en tapant tout simplement manifesterien.com. Vous pouvez aussi leur envoyer un mail à manifesterien@gmail.com. Et vous pouvez réserver, si ça vous intéresse, sur le site du Théâtre de l'Œuvre, théâtre-œuvre.com. Voilà. Jérémy, merci beaucoup d'être venu présenter cette pièce. Est-ce merci. Que tu veux dire un dernier mot ?
Merci à toi. Espérer que les spectatrices et spectateurs auront la même jouissance que nous, on a eu à mettre en scène ce spectacle-là. Je pense que ça devrait être au rendez-vous.
Ben, je l'espère aussi et je le pense aussi. C'est quand même une actrice assez forte, haut en couleur. C'est un seul en scène, ce spectacle. C'est pas tout le temps le cas, mais là, ça l'est. Du coup, elle joue plein de personnages différents et elle vous emmène avec elle pendant une heure de spectacle. Jeudi soir, jeudi 21 à 20h, vendredi 22 à 20h et samedi 23 à 20h au Théâtre de l'Œuvre. Et après, il y en aura d'autres, ça tournera ailleurs. Et auditeurs, auditrices, on se retrouve dans un mois pour une autre émission de La Rosée. En attendant, on vous laisse avec une musique des Dupin. Qui sont un groupe, un chouïa à l'ancienne, mais au final, pas tant que ça. Avec une musique qui s'appelle Les Vivants, parce qu'on est tous vivants, on en a besoin. Merci Jérémy.
Merci.
Big up à Virginie qui va jouer cette semaine. Et big up au collectif Manifeste Rien, à Céline, à tout le monde.
Yes, merci.
Merci beaucoup, au mois prochain. Ciao.
À bientôt.
Travaille à faire compa, hier avant les pas mourir des fangas de tissot. Luma, où est la mespresse, dis une raille des souleurs. Si un poudre se va sa benga de tissot. Yes, le travail est la salut. Yes, où est l'homme plus travaille, mi crébi à l'ouvradi. Travaille à faire compa, voudriez belle que sème la sienne comme toi. Nous sommes les vivants, ils ont cessé de me criminaliser les vivants. Nous sommes les vivants, sommes-nous la cible, l'ennemi. yes, son vengu bastite et pyramide. Son carregati la télévision, mais y jamais mes amis. Malicieux, ils sont toujours bien vestis. L'omerca fera la lei, et ça coquet ci fa gao. L'omerca fera la lei. Mai que a fa la lei, a fa l'engane, yes, a vi già che le vivan. Son a travaillar. Nous sommes les vivants, ils ont cessé de criminaliser les vivants. Nous sommes les vivants. Savoir qui nous sommes, experts du genre humain, aiguisent leurs croyances à leur convenance. Ils ont renoncé bien vite à leurs illusions, ils ont renoncé, commencé à s'armer. Nous sommes les vivants.
Vous êtes sur Radio Galère.
Sans cesser d'aimer, criminalise les vivants.
Et vous écoutez
les vivants.
Les vivants. Des Dupins.